Voilà, je crois qu'on va pouvoir commencer. Bonsoir à tous, bienvenue ce soir pour cette conférence. Comme vous le savez, le thème de cette conférence est pour parler de l'éducation au bonheur et la souffrance de la liberté mal comprise. On va pouvoir développer ce thème-là, effectivement, quels sont les besoins des jeunes et qui sont souvent mal compris avec les problèmes et les solutions. On va pouvoir faire aussi le point sur l'école d'éveil philosophique des enfants, école qui est créée au sein de l'association Duchamp Libertino. Et puis, comme vous le savez, il y a le nouveau livre de Martine Libertino qui vient de sortir et qui complète un peu les premières personnalités que vous aviez pu déjà découvrir si vous étiez au courant. Et sinon, on va les découvrir ensemble ce soir. Ça revient à 9 personnalités. Et pour terminer, si vous avez un intérêt en tant que médiateur, en tant qu'animateur, là vous aurez tous les détails. Alors qui va pouvoir intervenir ce soir ? Vous, évidemment, toutes vos questions sont à l'honneur pour qu'on puisse y répondre. Et Martine Libertino, qu'on ne présente plus, mais je vais quand même le faire, écrivain et conceptrice de l'école d'éveil philosophique. Je rappelle quand même que le livre, tout à l'heure, vous pouvez l'avoir dédicacé, si jamais. Fabienne Lager, qui est conseillère en éducation pour la coopération internationale. Elle est aussi animatrice dans l'école d'éveil philosophique. Elle s'occupe d'enfants principalement entre 6 et 11 ans. Mathieu Boyard, alors c'est vraiment une chance de pouvoir l'avoir ce soir, puisque c'est un élève pour devenir médiateur, mais c'est aussi un patient qui a commencé à suivre l'enseignement de Martine Libertino à partir de l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, il a 25 ans. Il est mûr et il va pouvoir nous parler de son expérience. Là, vraiment, on l'a en réel. Expérience aussi de deux personnes qui sont sur le terrain maintenant depuis un petit moment. C'est Chantal et Marie-Laure qui vont s'exprimer tout à l'heure. Alors, elles ont une expérience un petit peu différente parce que l'une s'occupe, comme Fabienne Lager, des enfants de 6 à 11 ans et Marie-Laure des adolescents 12 à 15 ans. À savoir que ça peut aller au-delà de cet âge-là aussi. Et puis, pour tous les renseignements concernant l'école, pour les inscriptions, pour les parents, etc., c'est Stéphane Mathieu qui est bien placé entre Chantal et Marie-Laure qui pourra répondre à vos questions, soit pendant la conférence, soit tout à l'heure à la fin. Alors évidemment, on va peut-être commencer par ce thème de l'éducation au bonheur et surtout pourquoi la souffrance de la liberté, pourquoi est-ce que la liberté peut être une souffrance et surtout pourquoi est-ce qu'elle est mal comprise ?
Alors, la liberté peut être une souffrance à partir du moment où, donc on parle des enfants évidemment, en l'occurrence, la liberté peut être une souffrance à partir du moment où on va permettre à un enfant de faire certaines choses, finalement, dont il ne peut pas assumer la responsabilité, d'une part, et d'autre part, je pense qu'il faut déjà trouver une définition valable de la liberté. Puisqu'on peut se dire que la liberté va permettre à l'enfant de se développer, parce qu'en fait, le problème de notre société actuelle, c'est qu'on a voulu, et à juste titre, hein, on a voulu donner à nos enfants ce que nous n'avons peut-être pas eu, hein, à savoir plus d'équilibre dans leur vie, plus de liberté de parole, plus de capacité de se développer en fonction de leurs besoins. Mais la difficulté, c'est que nous avons interprété cette notion de liberté. Et ce que les parents ont interprété, au fond, c'est qu'ils ils doivent laisser à leurs enfants la capacité de faire des choses dans la vie de tous les jours qu'eux n'avaient pas la capacité de faire dans le passé. Alors, le problème dans tout ça, c'est qu'il va falloir comprendre que la liberté, c'est un état d'esprit. Hein. Ce ne sont pas forcément toujours des actes. Et cet état d'esprit, pour moi, devrait amener les parents, si on parle vraiment de liberté, hein, devrait amener les parents à comprendre mieux, dès le départ, dès la petite enfance, à comprendre mieux la personnalité de leur enfant. Pour moi, c'est ça, je situe là-dedans la personnalité, la liberté. C'est de mieux comprendre la personnalité d'un enfant, d'arriver à découvrir l'idéal profond qu'il peut avoir, d'arriver à découvrir ses dons, d'arriver à découvrir ses talents, et permettre à cet enfant d'être guidé, justement, dans une voie qui vraiment sera la sienne et qui vraiment va pouvoir l'équilibrer.
Mais Martine Libertino, où se situe la frontière, justement, entre cette liberté et puis les contraintes, les règles, les limites qu'il faut mettre à l'enfant ? Est-ce que, d'après ce que vous dites, il faut comprendre que selon les enfants et selon la personnalité qu'il a, justement, il faut pouvoir adapter ?
Alors, bon, si on fait référence au passé, un enfant, finalement, n'avait pas de liberté, dans ce sens qu'on avait beaucoup de conventions dans notre société, on devait suivre une ligne, souvent c'était la ligne de papa et de maman, un jeune ne pouvait pas se développer, justement, en fonction de sa personnalité. Pour moi, c'est la seule différence, en fait, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons donner à nos enfants l'opportunité de vraiment découvrir qui ils sont, de découvrir cet être unique qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, à savoir... J'ai une âme d'artiste, j'ai une âme d'intellectuel, j'ai envie de faire telle chose, j'ai un talent pour telle chose. Et la liberté se situe là-dedans. C'est de permettre à cet enfant de découvrir qui il est et de le guider à devenir finalement cet être. Bon. Le problème, c'est que c'est pas tellement interprété de cette manière-là, et donc les parents finalement ont tellement peur de faire subir à leurs enfants ce que eux ont subi, que cette liberté souvent est basée sur une forme de culpabilité, à savoir je ne veux pas écraser mon enfant, je ne veux pas l'empêcher de faire telle chose, et cet état d'esprit amène les parents, sans qu'ils se rendent compte, avec tout l'amour qu'ils peuvent avoir pour les enfants, parce que je vois que les parents ont vraiment beaucoup de soucis pour leurs enfants, je vois qu'ils sont très motivés pour que leurs enfants soient heureux, mais en même temps, je vois aussi énormément de parents qui font preuve de laxisme, parce qu'ils n'arrivent pas justement à trouver cette frontière entre cette liberté dont je parle et la liberté de laisser un enfant faire ce qu'il a envie de faire. Mmh. Alors là, nous arrivons dans un domaine qui devient dangereux, à savoir le domaine de la responsabilité. Mmh. Parce que lorsqu'on donne à un enfant trop de liberté, on va mettre sur son dos une responsabilité qu'il ne peut pas assumer. Et cette responsabilité, c'est... est-ce que je suis capable d'assumer ce que je suis en train de faire? Est-ce que ce que je fais est bien pour moi? Est-ce que ce que je fais est bien pour la société à venir? Est-ce que ce que je fais est bien pour mon entourage? Donc, si on prend la situation des enfants, cette liberté mal comprise, mal interprétée, va les amener, et c'est ce que je vois tous les jours depuis de longues années, va amener les enfants à devenir faibles et égoïstes.
Alors, comment faire pour leur mettre des limites sans entraver leur liberté?
Alors, déjà, avant de leur mettre des limites, il faut les ouvrir à ce qu'ils sont. C'est la première chose. Et la seule manière d'ouvrir un enfant à ce qu'il est, c'est de lui permettre de découvrir qui il est. Alors, qui il est quoi hein?
D'abord, et
à partir de sa naissance. À partir de sa naissance. Parce que même si un enfant n'est pas capable de parler, même s'il n'est pas capable d'expliquer qui il est capable d'entendre, il est capable de ressentir, il est capable de voir ce qui se passe chez ses parents. Et donc, ça va être dans son éducation, l'attitude de ses parents, l'attitude vis-à-vis d'eux-mêmes, l'attitude au sein de la famille et l'attitude vis-à-vis de l'enfant va rejaillir de toute façon sur son interprétation. Et nous savons que nous faisons, puisque nous sommes des adultes, nous avons été des enfants, nous faisons nos programmations ou nous renforçons nos programmations déjà très jeunes. Et si nous ne prenons pas conscience de ces programmations, qui en fait sont des souffrances, si nous ne prenons pas conscience de ces programmations, elles vont nous poursuivre toute notre vie.
Alors justement, on le dit dans le thème de la conférence de ce soir, on croit savoir quels sont les besoins des jeunes et on se trompe. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer?
Bon, je trouve que le premier besoin dont on peut parler, qu'on croit être le besoin, c'est aussi quelque chose qui me frappe dans notre société actuelle, c'est qu'on veut à tout prix que les jeunes soient entre eux, que les jeunes ont leur vie propre, que les jeunes ont leurs habits, que les jeunes ont leur mode, etc. etc. Bon, c'est très bien, parce qu'il est évident que les jeunes n'ont pas besoin de se calquer sur les adultes. Mais en même temps, si on regarde le passé, et si nous regardons nous comment nous vivons dans notre société, nous vivons dans une société où les jeunes sont entre eux, mais en même temps, quand ils rentrent à la maison, papa et maman souvent travaillent, donc il y a peu de dialogue, il y a peu de discussion, il y a peu de références. On est en train de demander aux jeunes, sans nous rendre compte, on est en train de leur demander de prendre des points de repère, d'avoir des références. Mais au fond, ces références, ils les ont sur qui, sur quoi? C'est-à-dire qu'ils les ont sur leurs petits copains, sur la télévision, sur les médias, sur la mode, etc. Et si on se réfère au passé, on va se rendre compte que, en regardant de près quand même, on va se rendre compte que dans le passé, même s'il y avait des tas de choses qui n'allaient pas, ça c'est clair, l'important c'est pas de faire l'apanage du passé, mais c'est de garder du passé ce qui est bien et d'évoluer dans notre société actuelle, on va se rendre compte que dans le passé, les enfants étaient beaucoup plus avec des adultes, Parce qu'il y avait toujours des grands-parents qui s'occupaient d'eux, il y avait un oncle, une tante, et même s'ils étaient ensemble, il y avait la référence d'un être adulte, bon, qu'on avait envie de suivre ou qu'on n'avait pas envie de suivre, qu'on avait envie d'admirer ou qu'on n'avait pas envie d'admirer, mais en tout cas, il y avait une référence d'adulte. Et aujourd'hui, si on regarde un petit peu de plus près, on va se rendre compte que cette référence, c'est difficile pour les jeunes de l'avoir.
Alors, avec l'expérience que vous avez maintenant depuis plus de 25 ans, quels sont les problèmes récurrents, les problèmes principaux auxquels on doit faire face? Parce que j'imagine que ces 10 dernières années, les problèmes qu'on peut retrouver ne sont pas les mêmes que ceux qu'il y avait il y a 20 ans.
Je dirais que ce sont les mêmes, en fait. Ce sont les mêmes parce qu'on parle toujours de problèmes émotionnels. Donc, les problèmes émotionnels que nous voyons aujourd'hui chez nous, en tant qu'adultes, chez les enfants, ce sont exactement les mêmes problèmes émotionnels que nous avions dans le passé, que nos parents ont eu et que nos grands-parents ont eu.
Quoique, on peut préciser quand même que la société a évolué de telle façon qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales, et ça pousse les enfants à vivre des expériences différentes et beaucoup plus communes aujourd'hui.
Oui, mais ça n'enlève pas le problème émotionnel. Depuis que le monde est monde et depuis que l'être humain existe sur Terre, et dans toutes les cultures, dans toutes les races, nous avons tous les mêmes problèmes émotionnels.
Alors, quels sont ceux qui reviennent le plus souvent?
Alors, ceux qui reviennent le plus souvent, on peut dire que ce sont les problèmes de communication. C'est-à-dire qu'au départ, un enfant peut naître avec une difficulté avec une peur de ne pas pouvoir partager ce qu'il ressent, et donc avec une difficulté à exprimer ses sentiments, à exprimer ses émotions, d'autant plus. Et en grandissant, il va renforcer cette programmation, et il va reporter cette programmation dans sa vie affective plus tard, dans son couple et avec ses propres enfants. Donc vous voyez, c'est récurrent, c'est-à-dire que si on ne casse pas un petit peu le schéma, un jour, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Alors, donc on a parlé de la communication. On constate un énorme problème aussi souvent chez les jeunes, qu'on retrouve évidemment chez les adultes. C'est ce que j'appelle dans mon enseignement un problème de rejet, à savoir une personne un enfant qui au départ peut-être ne va pas se sentir reconnu, ne va pas se sentir aimé comme il le souhaiterait, ou même qui naît avec une forme de dépendance affective. Et cette dépendance affective va l'amener à être beaucoup plus attentif à ce que les autres pensent de lui. Et il va créer à l'intérieur de lui donc des programmations très précises qui sont « j'ai peur d'être rejeté, je ne m'aime pas, je me déteste, je n'accepte pas de recevoir ». Et c'est un enfant qui va petit à petit, en grandissant, devenir destructeur. Bon, je vais évidemment dans les extrêmes, mais qui pourrait devenir destructeur, en tout cas qui ne va pas s'aimer et qui va avoir du mal à savoir ce qui est bon pour lui.
Alors on le comprend bien, le mieux c'est d'agir le plus tôt possible sur les enfants déjà assez jeunes, comme le font Fabienne ainsi que Chantal, avec des enfants déjà qui ont 6 à 12 ans. Alors vous avez senti l'utilité, le besoin de créer une école justement d'éveil philosophique aux enfants. Vous pouvez nous dire comment ça a commencé, parce que vous aviez déjà commencé à faire des cours dans différentes écoles. Pourquoi créer votre école?
Bon, depuis 25 ans, je reçois des enfants. J'ai toujours vu cette souffrance des enfants qui est récurrente. Bon, on parle des enfants, mais parlons aussi de la souffrance des parents, parce qu'il ne faut pas dire non plus les parents sont tous des mauvais parents, les enseignants sont mauvais, tous les enfants sont les pauvres victimes, c'est pas ça. Je veux dire, mais c'est vrai que j'ai reçu beaucoup d'enfants, je fais un travail avec les familles en général, je reçois les parents et les enfants. Et depuis 25 ans, je vois la même souffrance, mais cette souffrance, je l'ai vue augmenter. Je la vois augmenter chez les enseignants, je la vois augmenter chez les parents, et je la vois augmenter chez les jeunes qui sont de plus en plus destructeurs. Alors, au départ, c'est vrai que je donnais mon enseignement donc dans un travail privé, d'ordre privé, puisque je donnais des consultations, et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était bien de donner des conseils aux gens, c'était bien de donner des techniques de travail, mais en même temps, ce qui est important, c'est d'apporter un enseignement qui va permettre, dès la naissance à un enfant, de trouver un équilibre dans sa vie, et cet équilibre, il va le transporter avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Et plus on va commencer jeune, et moins on va souffrir. C'est pour ça qu'on parle de l'éducation du bonheur, parce que le but de l'opération, c'est ça. Et en 2002, parce que j'ai essayé pendant de longues années de réveiller un petit peu les pouvoirs publics, qui n'étaient peut-être pas encore assez motivés parce qu'il n'y avait pas assez de problèmes, il n'y avait pas assez de violence, malheureusement.
Aujourd'hui, c'est une conscience.
Aujourd'hui, il y a une conscience, oui. Et donc en 2002, j'ai lancé avec mon association une pétition déjà pour demander que des cours d'éveil philosophique soient obligatoires dans les écoles. À l'époque, il y a eu quelques motivations, mais très discrètes. Et c'est vrai qu'à la suite de cela, je me suis dit que le mieux, c'était de se lancer au sein de l'association, d'autant que j'avais autour de moi des gens qui étaient motivés, enthousiastes, et qui avaient vraiment envie de participer à ce projet.
Comment est-ce qu'elle s'organise, cette école ? C'est combien d'heures de cours par semaine ? Et à partir de quel âge les enfants peuvent venir ? Est-ce qu'ils viennent seuls ? Est-ce qu'ils viennent avec les parents ?
Alors, il y a trois groupes d'âge. Le premier âge, entre 6 et 11 ans. Le travail se fait d'une manière plus ludique parce que les enfants sont plus petits. Les animateurs travaillent avec un des livres que j'ai écrit qui s'appelle... le titre déjà.
Les contes imaginaires.
Voilà, les contes imaginaires, merci, de Jonathan. Donc, sur les petits contes que l'animateur peut travailler avec l'enfant. Ensuite, il y a des groupes de 12 à 15 ans. Et là, il y a beaucoup de dialogue. Les jeunes sont capables vraiment de comprendre.
Ils sont combien par groupe ?
Bon, en principe, 10 au maximum. Mm-hmm. Ouais. Et puis, des groupes de 16, donc jusqu'à 21 ans.
Mm-hmm. Alors, justement, Fabienne Lager, vous êtes animatrice dans cette école d'éveil philosophique, mais je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes aussi conseillère en éducation pour la coopération internationale. Est-ce que pour que les gens puissent comprendre, vous pouvez nous expliquer un petit peu ces deux fonctions ?
Bon, en fait, c'est deux fonctions qui n'ont, disons, du point de vue de ma profession, du point de vue institutionnel, rien à voir. Je travaille pour le département des affaires étrangères, pour la coopération au développement, et avec Martine Libertino dans son association, et je donne des cours d'éveil philosophique. Mais en fait, c'est vrai que ce que j'ai vu de l'éducation dans le monde, puisque c'est de ça que je m'occupe, surtout en Afrique occidentale, mais aussi dans d'autres parties du monde, c'est que cette réflexion sur la finalité de l'éducation, elle existe partout. C'est-à-dire que partout, on constate que la connaissance en tant que telle ne suffit pas. Ce n'est pas seulement le savoir, mais ça doit être aussi le savoir-être qui est transmis aux enfants, quoi, aux enfants et aux jeunes. Et partout, on voit cette fracture. Et moi, j'ai été très interpellée. J'ai fait la formation de médiateur dont Martine va certainement parler tout à l'heure, qui m'a beaucoup... éveiller en fait à cette conscience que si on veut construire une société plus saine, plus durable, plus pacifique, etc., il faut commencer vraiment avec les enfants. Et les connaissances qu'on a acquises dans la formation de médiateur de Martine Libertino peuvent être transmises aux enfants dès leur plus jeune âge. C'est pas quelque chose d'une... Et je vois que c'est le regard sur d'autres pays qui m'a éveillée au déficit en fait de l'éducation qu'on a chez nous par rapport au savoir-être.
Mais concrètement, vous pouvez nous donner des exemples, vous en tant qu'animatrice, comment se déroulent les cours ? Alors, j'ai dit, vous avez des enfants assez jeunes, entre 6 et 11 ans. Comment ça se déroule avec vous ?
Alors, moi, justement, avec les enfants jeunes, en fait, on a vraiment une pédagogie qui est appropriée pour cette classe d'âge, puisqu'on travaille d'abord avec le livre que Martine Libertino a mentionné tout à l'heure, qui sont des contes. Donc évidemment que l'objectif, c'est exactement celui que Madame Libertino citait tout à l'heure, c'est de vraiment apprendre aux enfants à mieux se connaître, à savoir qui ils sont, à connaître leur personnalité, leurs dons, leurs qualités, à les nommer.
Ça veut dire que ceux qui viennent aussi n'ont pas forcément des problèmes. C'est un éveil pour pouvoir retrouver sa personnalité et s'exprimer. Donc c'est pas forcément les enfants à problème.
Non, je pense...
Les deux.
On peut avoir de toutes sortes en fait d'élèves dans sa classe, mais de toute façon, je pense que quel que soit l'enfant, qu'il ait de gros problèmes ou pas de gros problèmes, de toute façon, il retire un énorme bénéfice à comprendre depuis son plus jeune âge comment il fonctionne, à mettre des mots aussi sur ses émotions, sur ses sentiments, à comprendre comment il fonctionne et à comprendre vraiment ses qualités et aussi ses souffrances. Et c'est vrai que Madame Libertino mettait l'accent tout à l'heure sur le problème de communication. On insiste beaucoup sur de pousser en fait les enfants pour qu'ils expliquent, pour qu'ils disent, pour qu'ils puissent mettre des mots en fait sur ce qu'ils ressentent. Mm-hmm. Et pour qu'ils puissent comprendre, par exemple, faire la distinction entre ce que c'est un sentiment qui est positif, ce que c'est une émotion, etc. Donc on travaille avec ce livre qui les contes illustrent en fait 9 personnalités ou 9 qualités, ou ce qu'on pourrait appeler aussi des qualités que les enfants comprennent très très bien.
Ils comprennent.
Ouais, ils comprennent extrêmement bien. Par exemple, sur le problème de rejet dont Martine Liberto parlait tout à l'heure, il y a un conte vraiment, une histoire toute simple, hein, qui est celle d'un jeune, d'un enfant en fait. Bon, c'est dans un monde imaginaire. qui s'attache à une fille, qui ne regarde que cette fille, qui sait cette fille-là le rejette, ne peut pas entendre parler de lui, se sent misérable, il doute de lui, etc. Et pendant ce temps-là, il perd toute faculté de voir en fait les gens qu'il aime, qui pourraient lui apporter quelque chose de bien, etc. Donc c'est vraiment des petits contes qui sont tout simples, mais qui sont d'une grande valeur vraiment philosophique, parce qu'un enfant à qui on explique ça et avec qui on parle de ça, il se reconnaît en fait. Il se reconnaît tout de suite dans des situations de rejet, là où il va vers les petits copains qui ne le regardent pas, ceux qui le rejettent, etc. Donc à partir de là, on discute.
Mais qu'est-ce qui se passe justement dans cette phase d'évolution entre l'enfant qui arrive et qui prend connaissance et qui arrive à comprendre ces éléments-là et celui qui arrive à digérer réellement et que vous, avec votre expérience, vous arrivez à savoir qu'il y a un effet positif. En fait, comment est-ce qu'on peut le concevoir ?
Pour qu'il y ait un effet positif ou comment est-ce qu'on le voit ?
Oui, comment est-ce qu'on le voit ? Qu'est-ce qui change chez un enfant qui a 6, 7, 8 ans et qui a compris, par exemple, l'exemple que vous venez de donner sur le rejet ? Qu'est-ce qui fait que vous avez compris que c'est une information digérée et...
En fait, ce qui est très surprenant, c'est de voir à quel point les enfants se souviennent d'un cours à l'autre ce qu'ils ont appris. Par exemple, une fois, on a travaillé sur le subconscient et la conscience. Ça peut paraître des notions du domaine de la psychologie.
Un cours à l'autre, c'est il y a à peu près 3 semaines.
Il y a à peu près 3 semaines, voilà, exactement. Donc, en fait, on apprend à l'enfant à distinguer ce qui est de l'ordre de sa conscience, sa petite voix intérieure, celle qui lui donne de bons conseils, qui lui souffle des choses en fait positives à l'oreille, on peut dire, et puis son subconscient qui est plutôt la somme de ses peurs, de ses colères. Est-ce que ce subconscient-là lui dicte ? On peut le faire en fait de manière toute simple, et d'une fois à l'autre, l'enfant s'en souvient. Alors par exemple, quand on travaille après sur le problème du rejet à partir d'une histoire toute simple, si on lui demande en fait quelle est la voix qui a indiqué à ce petit garçon d'écouter plutôt ceux qui le rejettent, il va tout de suite se souvient en fait. Il arrive à dire oui, là, en fait, il n'aurait pas dû écouter celui qui le rejette, il aurait plutôt dû aller vers les autres, etc. Donc il y a beaucoup de signes qui nous indiquent que les enfants digèrent, comprennent, se souviennent et peuvent utiliser aussi ce qu'ils apprennent.
Parce qu'ils retrouvent justement ces situations dans leur vie personnelle.
Justement, est-ce que vous avez des retours de la part des parents ou des enseignants peuvent observer leur enfant évoluer?
Bon, il y a de la part des animateurs, donc les retours bien sûr, puisque je suis leur travail.
Avec une formation continue.
Voilà, il y a la formation de médiateur au départ, ensuite il y a la formation continue toute l'année, et ensuite il y a un travail de formation pour les animateurs précisément, où on ne travaille que sur les enfants. Tout au long de l'année, s'il y a des problèmes avec les enfants, les animateurs peuvent me téléphoner, donc ils sont suivis. Mais le moment le plus intéressant, c'est en fin d'année, puisque nous avons institué un bilan de fin d'année où nous demandons aux parents de venir. Et les enfants sont là, donc les animateurs, les parents, les enfants sont présents, et je fais un bilan avec tout le monde. Et là, il se passe des choses très intéressantes, très importantes. Et on voit vraiment qu'il y a
l'importance de ce bilan. Oui. Alors, un bilan qu'on peut peut-être apercevoir ensemble, puisqu'il l'a vécu de l'intérieur. Je l'ai présenté tout à l'heure, Mathieu Voyard. Alors, vous n'êtes plus un enfant, vous êtes un homme maintenant. Mais quand vous avez commencé ces cours d'éveil philosophique, vous aviez 8 ans. Pourquoi et comment est-ce que vous avez commencé à bénéficier de ces cours ?
En fait, c'est parti de ma mère qui faisait des consultations chez Martine, en fait. Et elle m'a amené chez Martine lors de son divorce. Donc, lorsqu'elle a décidé de divorcer de mon père.
Mais vous étiez un enfant à problème ?
Pas spécialement à 8 ans, pas trop, non, j'ai pas souvenir. Et en fait, donc elle nous a amené, mon frère et moi, pour qu'on fasse un peu un bilan avec Martine, qu'on comprenne la chose peut-être un peu mieux que voilà.
Et qu'est-ce qui a fait que ça a continué, que ça n'a pas duré juste une année, 2 ans, 3 ans, et que vous avez continué jusqu'à maintenant, et même eu envie de devenir médiateur ou même animateur?
Je ne suis pas un animateur, en fait.
Mais vous cherchez à faire la formation?
Je vais la faire, ouais, tout à fait. Ouais.
On verra. Alors, pourquoi ça a continué?
En fait, je sais pas, moi, ça m'a apporté tellement de discuter avec Martine. Je trouvais que c'était une femme qui nous apportait beaucoup. Je trouvais qu'elle rendait heureuse ma mère et tous mes proches. Donc, voilà, que j'ai trouvé intéressant de suivre ces formations. Et surtout, j'avais une souffrance au fond de moi que j'ai appris à, à libérer, à m'en détacher. Donc voilà, c'était plus par besoin que j'allais voir Martine. Quoi.
Et cette souffrance, elle se libère rapidement, à 8 ans, 9 ans, 10 ans, ou il faut attendre l'adolescence ?
Bah, écoutez, moi j'ai travaillé depuis, je sais pas, depuis 15 ans, j'ai attendu 20 ans pour suivre la formation, enfin les cours que Martine donnait à l'EPFL. Mm-hmm. Et donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc, je sais pas, mais j'ai pas arrêté de la voir, de travailler sur ma main.
Et vous avez l'intention de continuer ?
J'ai l'intention de continuer. Voilà. Mm-hmm. Donc,
Martine Libertinot, vous avez quelque chose à dire sur cette expérience ?
Tout à fait, oui. Ce que je pourrais dire sur la souffrance donc, de Mathieu au départ, c'est vrai que lorsqu'il est venu, ce n'était pas un enfant difficile, hein, mais c'était un enfant qui avait une personnalité comme nous tous. Et à travers cette personnalité, il y avait quand même des souffrances, il y avait des programmations émotionnelles qui étaient là, et qui étaient présentes dans sa vie et qui l'amenaient à avoir des attitudes très particulières, très précises. Par exemple, je peux dire, un manque d'amour pour toi, des difficultés à te sentir bien dans la vie, etc. Et la première chose, évidemment, qui est importante de faire, c'est d'expliquer à l'enfant, parce que, comme disait Fabien Lagier, les enfants comprennent très bien, très vite. Hein. Donc la première chose, c'est de lui expliquer pourquoi il souffre, quelle attitude il a, comment lui aussi provoque la souffrance. Parce que le but, c'est pas de dire « tu souffres parce que les autres font du mal ». Le but, c'est de dire « nous souffrons parce que nous sommes responsables d'attitudes intérieures, nous sommes responsables d'une manière de fonctionner qui n'est pas forcément adéquate, qui n'est pas juste ». Et à partir du moment où cette explication est donnée, si l'enfant et plus tard l'adulte acceptent, parce qu'on n'a pas parlé de motivation, mais ça c'est absolument indispensable, on ne peut pas obliger que ce soit un enfant ou un adulte à être heureux, ni à changer. Donc il est impératif pour aider une personne, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit moins jeune, que cette personne soit motivée, qu'elle ait la volonté de s'en sortir, et qu'elle décide, qu'elle accepte de travailler dans le temps, qu'elle décide d'être persévérante, parce que les habitudes de fonctionner que nous avons sont difficiles, elles sont lourdes, puisque c'est quelque chose, c'est une habitude. Hein. Et le travail en fait de Mathieu a été de petit à petit découvrir qui il était, de découvrir dans sa vie de tous les jours comment il fonctionnait, comment aussi, quand il ne fonctionnait pas de cette manière, comment il pouvait être mieux. Je pense que tu as pu aussi, tu n'as pas parlé de ton parcours en tant que professionnel aujourd'hui, puisque tu es devenu un homme. Hein. Et effectivement, tu as décidé un jour de travailler aussi, d'être indépendant, de travailler à ton compte. Et là aussi, il y a eu quand même une étape à franchir. Cette étape, c'était le manque de confiance. Vous parliez tout à l'heure des programmations les plus difficiles à vivre. La peur en est une. Et il y a eu aussi cette étape que Mathieu a dû franchir et que tu as franchi haut la main, puisqu'aujourd'hui, ton entreprise fonctionne très bien.
Voilà. Mm. En fait, ça m'a aidé tout au long de ma vie. Je sais pas, quand j'avais 16 ans, j'avais plutôt tendance à être un garçon un peu rebelle. Et ça m'a aidé un peu à apprendre à m'aimer, donc apprendre à aimer les autres. Et voilà, quoi, apprendre à voir les limites quand on a soi-même et comprendre les limites des autres.
Alors, finalement, avec l'expérience que vous avez, chacun de vous, est-ce que vous avez le sentiment, parce qu'on l'a bien compris, vous l'avez dit à plusieurs reprises, il faut déprogrammer les émotions qui peuvent polluer l'éducation d'un enfant, mais qui peuvent polluer sa propre vie. Alors, est-ce que finalement, vous pensez, je vais peut-être vous poser la question à vous d'abord, que chaque parent devrait suivre cette formation avant de faire des enfants ou en faisant des enfants? Ça devrait être obligatoire, pas pour les enseignants, mais pour les parents, finalement.
En fait, ça pourrait aider, en tout cas. J'ai l'impression que ma mère, ça l'a beaucoup aidé quand elle s'est retrouvée seule. Elle a appris à mieux gérer la chose, je pense. Là, ça a dû beaucoup l'aider, et nous aussi. Quoi. Mm-hmm. Ça déteint sur nous, donc c'est clair que je pense que les parents qui cherchent comment éduquer leurs enfants, Martine Libertinot peut leur apporter quelque chose.
Mm-hmm. Fabienne Lagier, pour vous, tout le monde devrait apprendre?
Ah, ça c'est un rêve. Mais je pense que il faut pas non plus avoir une approche, c'est-à-dire c'est pas la, comme on disait récemment en discutant, c'est pas la panacée universelle et la recette miracle qui est bonne pour tout le monde. Mais je pense que en fait, de toute façon, on est déjà énormément à avoir suivi cette formation de médiateur et à trouver que c'est vraiment des connaissances qui aident énormément pour guider un enfant. Et je pense que la prise de conscience qu'on n'est pas des parents simplement pour pour élever un, hein, mais vraiment pour guider un être, pour mieux se connaître, pour comprendre sa personnalité, pour dépasser ses souffrances, pour connaître ses dons, etc. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Et je dois dire que, en tout cas, moi, j'ai vraiment une conscience très forte de ce que ça veut dire, justement, de guider un enfant. Et je peux dire à 100% que il y a énormément d'instruments très concrets et d'une grande profondeur, mais évidemment que ce n'est pas des instruments comme n'importe quelle approche qui va convenir à tout le monde. Mais je pense que ce serait, en tout cas, pour le grand bonheur des enfants, des jeunes et de notre société, et de tous les enfants qui feront la société de demain, de pouvoir être guidés avec ses connaissances.
Alors Martine Libertino, vous le dites, hein, ces cours de dominateur s'adressent un peu à tout le monde, que ce soit les chefs d'entreprise, les gens qui travaillent dans la magistrature, ou encore les enseignants, les parents. Est-ce que votre rêve, ce serait que tout le monde suive ces formations, parce qu'elles ne sont pas si contraignantes que ça?
Oh, pas du tout, c'est une aventure, c'est un bonheur.
Non, mais quand je dis pas si contraignante que ça, c'est parce que c'est des formations de quelques jours avec un suivi par année. Donc c'est pas, il n'y a pas besoin de se couper de sa vie et de son quotidien.
Mais le principe de la formation, justement, c'est de nous mettre en plein dans notre quotidien, c'est surtout pas de nous couper. Le but, ce n'est pas de vivre sur un petit nuage en se gargarisant entre nous en disant nous avons la science infuse, justement. C'est de pouvoir acquérir des clés pour pouvoir aller vivre dans notre vie de tous les jours. Dans notre société, dans notre travail, dans notre carrière, avec les difficultés que nous avons, pour pouvoir justement... en fait, mon but, c'est quoi? Mon but, c'est de prouver si c'était possible un jour. Je ne sais pas si ça sera possible de m'en vivre, j'en sais rien. Mais de prouver à l'être humain qu'on peut être heureux sur la Terre. Mais c'est vrai que ça demande du travail. Ça demande du travail. Et pour en revenir aux enfants, il ne faut pas rêver. Si on veut rendre nos enfants heureux, ben, il faut déjà qu'eux nous voient heureux. Mais qu'est-ce qu'il faut à un être humain pour qu'il soit heureux? C'est la question, c'est la grande question. La question amène une réponse. C'est que pour moi, pour qu'un être humain soit heureux, déjà, il va falloir qu'il découvre qui il est. Il va falloir qu'il cesse de se dire que l'idéal, c'est pour les autres. Mm-hmm. Que faire un métier qui lui plaît, avoir une vie heureuse, avoir un couple épanoui, c'est de l'utopie. Dans notre société, c'est pas possible. Ce n'est pas vrai, c'est tout à fait possible. Mais effectivement, ça demande du travail.
Alors justement, il y a toutes ces personnalités qui sont développées dans le nouveau livre qui vient de sortir. Je rappelle que ça peut être dédicacé à la fin de la conférence, et qui fait suite au tome 1. Avant qu'on développe les personnalités pour comprendre un petit peu ces 9 personnalités, vous n'avez pas levé la main, Chantal et Marie-Laure, et vous étiez censée peut-être intervenir. Est-ce que pour vous, tout a été dit, ou vous avez envie de faire part un petit peu de votre expérience? Alors, je rappelle, Chantal, vous vous occupez des enfants qui ont entre 6 et 11 ans. Marie-Laure, vous, c'est plutôt ceux qui ont entre 12 et 15 ans. Si vous pouvez quand même un petit peu nous faire part de votre expérience.
Oui.
Alors, le micro, voilà. Chantal.
Voilà. Je m'occupe d'un groupe d'enfants de 6 à 11 ans depuis une année. Et puis, je suis aussi une maman, et ça, je tiens à dire, parce que c'est vrai que de mon expérience de maman et de maman seule depuis 2 ans, ces cours m'ont profondément aidée, parce que je me dis que si je n'avais pas eu les cours, eh bien, je me serais comportée comme cela avec mon enfant, mais d'une manière pas juste, en tout cas. Je serais peut-être partie dans les colères ou des positions très obstinées. Et c'est vrai que des fois, je suis toujours en train de remercier d'avoir rencontré Martine Libertino pour faire ses cours, déjà en tant que mère.
Mais est-ce que ça veut dire qu'en tant que mère, vous arrivez à éviter les crises qu'un enfant fait normalement?
Moi, j'arrive, moi, à maîtriser des situations que j'aurais probablement auxquelles j'aurais réagi bien différemment sans cette formation. J'aurais répété un schéma peut-être de mes parents, parce que c'est drôle, parce que maintenant, des fois, je me vois avoir envie de réagir d'une certaine façon, qui sont des programmations qui ne m'appartiennent pas, et après, avec la réflexion, je me pose un peu, je me dis non, Chantal, là, tu ne vas peut-être pas crier sur ton gamin, ce n'est pas le moment, parce que ça ne va pas l'aider. Et puis, c'est incroyable, parce qu'en fait, quand je me pose, eh bien, les solutions arrivent, il n'y a pas de crise, et puis, le problème, ça ne passe pas tout de suite, mais on passe le problème avec beaucoup plus de réponses adaptées, je trouve. Et l'enfant, il trouve son compte, puisque l'enfant aussi a ses propres réactions.
Merci.
Alors, voilà, déjà en tant que maman. Et puis ensuite, en tant qu'animatrice, alors c'est une aventure, hein, je dois le dire aussi, parce que de profession, je ne suis pas enseignante non plus. Donc c'est un, ça veut dire aussi que c'est un cours accessible à tout le monde. Au départ, j'ai eu mes doutes en tant que, dire, ouais, enseigner devant des enfants, mais qui je suis pour qu'on me permette d'enseigner à des enfants. Mais quand on, le plus on saisit le fond du travail qu'on a apporté à des êtres humains, parce que les enfants ce sont des êtres humains, ça peut être des adultes, ben on s'aperçoit que c'est possible sans avoir un cursus d'enseignant. Et par l'expérience, je dois dire que, comme l'a bien expliqué Fabienne, les enfants n'analysent pas avec leur tête. Hein. Ils ont cette faculté-là, donc ils s'accessent beaucoup plus directement, puisqu'on utilise beaucoup ce qui parle profondément en eux, et qui ils sont. Ils n'ont pas besoin d'avoir des connaissances, d'avoir eu les cours avant pour leur expliquer qui ils sont et comment ils fonctionnent, puisque dès qu'on touche le fonctionnement typique d'une personnalité, ou si on touche un problème, s'il se pose en tant que problème, et même en tant que qualité, ils se reconnaissent instantanément. Et c'est ça, j'aime pas utiliser ce mot, mais ce côté un peu magique, plutôt instantané, plutôt dire instantané que magique. Et quand on perçoit pendant le cours que l'enfant finalement, le cours dernier par exemple, je peux donner un exemple concret, j'ai eu affaire à deux enfants qui, dès le début du cours, étaient opposés à venir au cours, pour tout un contexte dont je ne veux pas parler, mais ils se sont positionnés très fermés, ils ne voulaient pas ce cours. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, j'ai appliqué ce que j'ai appris pendant les cours, et je leur ai parlé du problème émotionnel qui était derrière. Eh bien, je n'ai pas mis très longtemps pour que la situation se débloque et que le cours puisse démarrer et que les enfants puissent participer et accepter l'idée qu'il allait avoir ce cours et l'idée qu'on allait passer 2 heures ensemble. Ils avaient le choix de ne pas l'accepter aussi, mais là, ils ont accepté. Et j'ai utilisé donc ces outils, et en utilisant ces outils, j'ai eu une réponse, puis après ça a été un dialogue tout pendant le cours, et à la fin même, j'ai eu un remerciement du petit qui était très opposé, qui m'a fait un dessin et qui me l'a offert. Donc, c'était aussi une manifestation de son acceptation du travail qu'on devait faire ensemble.
Alors un dialogue qui peut être difficile, voire très difficile avec les adolescents, on le sait, les adolescents à l'âge de entre 12 et 15 ans peuvent être en crise, ils se ferment, ils se révoltent, ils ont ce qu'on appelle l'âge bête, je ne sais pas si je suis autorisée à dire ça. Là, c'est ce à quoi vous avez à faire face. J'ai le droit de dire ça ou pas?
Vous avez tout le droit. Est-ce que je suis d'accord? C'est autre chose.
Non, mais c'est un peu la période où les enfants se révoltent.
C'est ce que ça rassure les adultes de dire ça.
Voilà. J'ai pas encore d'enfants, je verrai bien si ça arrive.
J'ai toujours dit que si les enfants avaient l'âge bête, nous avons tous l'âge bête de la naissance jusqu'à la fin de notre vie.
Alors cette expérience-là, c'est Marie-Laure qui peut nous en faire part, parce que vous êtes confrontée aux enfants entre 12 et 15 ans.
J'ai pas du tout l'expérience d'enfant, bien au contraire, parce qu'il peut arriver fermé, il peut pas avoir nécessairement envie de participer au cours, mais on arrive toujours.
Mais c'est une période de révolte quand même. Pas forcément.
Plutôt de souffrance. Ils arriveront certainement à la révolte si leur souffrance n'est pas entendue.
Il faudrait peut-être se poser la question pourquoi cette période peut amener la révolte chez un jeune.
Est-ce qu'elle n'est pas inévitable?
Mais bien sûr que c'est pas inévitable. C'est là la question à se poser. Est-ce que on peut éviter cette soi-disant crise de l'adolescence, qui pour moi est une crise quasiment déjà institutionnelle?
Parce que selon vous, on peut l'éviter?
Bien sûr qu'on peut l'éviter. C'est clair.
C'est rassurant, parce que je ne sais pas si vous savez, mais au niveau des chiffres, en tout cas, à Genève, en Suisse romande, c'est assez fort, mais par exemple, le taux de suicide des jeunes adolescents est un des plus élevés ici à Genève. Il y a vraiment une détresse à ce niveau-là. Il y a une détresse aussi du côté de la peur de l'avenir, sans vraiment de repères. Et donc, il y a de plus en plus de violence. Vous avez dû le voir dans la presse ces derniers temps, on en parle un peu plus, des problèmes d'alcool, des petits alcools vendus à 1,90 francs, des petits sachets comme des bonbons, et des jeunes qui boivent de plus en plus rapidement et qui arrivent au coma éthylique. Alors on a l'impression qu'il y a une perte de maîtrise. Donc selon vous...
Nous ne voyons que les symptômes, cherchons les causes.
Hein. Alors quelles sont ces causes? Marie-Laure, vous voulez ajouter quelque chose?
Moi j'avais l'exemple d'une jeune adolescente de 15 ans qui arrive au cours, amenée par sa maman, donc elle n'était vraiment pas très contente d'être là. Et puis, elle a écouté la présentation, c'est le premier cours, la présentation de l'école, les buts de l'école. Et après est arrivé le moment où chaque élève, après que l'animatrice s'est présentée elle aussi, se présente. Alors j'ai proposé pour faciliter la présentation de chacun, parce que tout le monde n'est pas toujours d'accord de s'étendre sur lui-même, de faire un petit dessin. Alors cette jeune fille me dit, ah, moi je ne veux pas dessiner, moi je n'ai pas envie du tout. Et je lui dis, tu prends une feuille, tu prends un crayon couleur qui te fait plaisir, et tu y vas, tu dessines ce que tu veux, comme tu veux, même des petits ronds, même des... n'importe quoi. Elle s'est mise à dessiner très très rapidement, et je leur avais demandé de se présenter et d'imaginer comment eux pouvaient être par la suite, dans leur avenir, idéalement. Et elle s'est prêtée au jeu, puisque tout le monde s'est prêté au jeu, et dans ce dessin, on a pu parler de la qualité qu'avait cette jeune fille. C'est une jeune fille très forte, avec une grande force, beaucoup de générosité, qui avait un idéal de vie, alors que souvent les adolescents n'aiment pas parler de leur idéal de vie. Et grâce à ce support de dessin, en lui montrant les qualités, la qualité qu'elle avait, elle a pu s'exprimer sur sa force. Et la fin du cours, elle a parlé tout court. Elle était rayonnante, elle a participé. Et ça a permis au reste du groupe de s'exprimer aussi.
Donc ça, c'est une belle expérience, et on le voit, il y a des personnalités, comme vous l'expliquez. Alors pour ceux qui n'ont pas pris connaissance du premier tome de Réflexion sur l'éveil philosophique de nos enfants, il y avait trois personnalités qui étaient mises en évidence. C'était l'individualiste, le sensible et le communicatif. Et puis là, ça se complète, on a les neuf personnalités. Je les cite et puis on va pouvoir les expliquer. Le persévérant, l'autonome, le responsable, le philosophe, le conquérant, l'idéaliste. Alors, toutes ces personnalités, Martine Libertino, est-ce qu'on peut les avoir à tout moment, ou bien il y a des stades dans la vie où on change de personnalité ?
Alors, au départ, nous avons, on peut dire que chaque être humain a une personnalité qui lui est propre. Bon, c'est plus complexe que ça, parce que nous n'avons pas justement qu'une seule personnalité, ça serait trop simple, hein. Nous pouvons avoir à l'intérieur de nous des tendances beaucoup plus fortes où une personnalité ou deux ou trois personnalités vont prédominer. Ce qui veut dire que l'enfant va avoir les qualités de ses personnalités qui vont transparaître déjà depuis sa naissance. Et si les parents étaient attentifs, bon, c'est pas qu'ils ne sont pas attentifs, c'est que, mon Dieu, ils ne savent pas, hein. C'est que si les parents ont connaissance de ces personnalités, ils vont pouvoir être beaucoup plus attentifs à des attitudes, à des mots, à des manières de fonctionner chez l'enfant qui vont lui faire reconnaître certaines choses et qui vont même leur permettre de le guider dans un métier ou dans un autre, ce qui est quand même assez important, et qui va permettre à cet enfant de s'approcher de son idéal et de pouvoir faire une carrière plus tard qui va lui faire plaisir et qui va lui permettre de ne pas faire un métier alimentaire. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il va y avoir des attitudes aussi plus négatives, si je puis dire, où l'enfant peut avoir des colères plus fortes, l'enfant peut avoir une manière de fonctionner dans sa communication, dans ses gestes, dans ses attitudes, que là aussi, les parents peuvent reconnaître d'une manière très précise, à travers les mots qui sont dits, à travers les attitudes de l'enfant. Ils vont pouvoir découvrir un problème émotionnel qui appartient à un type de personnalité. Et en même temps, ils vont pouvoir justement à ce moment-là guider l'enfant pour qu'il puisse se débarrasser petit à petit de ses habitudes de fonctionner qui sont des habitudes de fonctionner qui l'amèneront à souffrir.
Donc selon les personnalités que l'on découvre, il y a des modes de réponse qu'il faut avoir dans l'éducation.
Bien sûr, il y a des techniques très très précises, c'est-à-dire qu'il y a des attitudes très précises.
Vous pouvez nous donner un exemple ?
Bien sûr. Bon, on a parlé d'un enfant qui peut avoir un problème de rejet, parce que c'est un sujet quand même récurrent dans notre société. Un enfant qui a un problème de rejet est un enfant déjà au départ que des parents, qu'un enseignant va pouvoir reconnaître comme un enfant qui pourrait être dépendant. Hein. Dépendance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a besoin qu'on l'aime, il a besoin qu'on le touche, il a besoin qu'on lui fasse des câlins, il peut être même étouffant hein, pour son entourage. Et c'est un enfant qu'on va voir susceptible parce que selon l'attitude des parents, si tout d'un coup les parents s'intéressent à notre enfant, si les parents ont des problèmes dans leur vie, dès qu'ils ne seront pas attentifs à cet enfant, il va réagir d'une manière très précise. Soit il va se retirer en devenant passif, soit il va développer une agressivité, une colère, un sentiment de frustration qui va l'amener à un sentiment d'injustice, qui peut l'amener un jour à dire, et même un enfant très petit va pouvoir l'exprimer, va dire « moi, on ne m'aime pas ». C'est l'enfant qui va rentrer de l'école en disant « de toute façon, personne ne m'aime, la maîtresse ne m'aime pas ». Mes copains, ils s'amusent tous ensemble et puis moi, ils me laissent de côté. Et on va percevoir chez cet enfant une grande souffrance.
Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ?
Alors, ben déjà, on a la possibilité de lui expliquer, sa personnalité. On va pouvoir lui expliquer que c'est un être très sensible, parce que pour qu'un enfant soit dépendant, il faut également, chacune de ces difficultés émotionnelles, on va s'apercevoir que derrière se cache une très belle qualité. Donc la première chose à expliquer à cet enfant, c'est qu'il a une très belle qualité. Et sa qualité, c'est quoi ? C'est sa sensibilité. Sa sensibilité, c'est sa capacité de douceur, sa capacité d'être à l'écoute des autres. Mais évidemment que si il développe cette qualité d'une manière extrême, elle va se transformer en programmation émotionnelle, en ce qu'on appelle un défaut, en fait. Hein. Bon. Donc première chose à expliquer, c'est lui montrer la beauté de son être, lui montrer la beauté de sa personnalité, et ensuite lui expliquer la cause de sa souffrance. Pourquoi arrive-t-il à la maison en disant « personne ne m'aime » l'amener à réfléchir, mais est-ce que tu es sûr que personne ne t'aime ? Ou est-ce que c'est toi qui as l'impression que personne ne t'aime ? Est-ce que c'est toi qui ne te mets pas à l'écart ? Ou est-ce que c'est toi peut-être qui agresse les autres, qui fait en sorte de ne pas te faire aimer ? Donc il y a tout un dialogue qui va s'amorcer avec l'enfant. Et ce qui est intéressant dans ce dialogue, c'est que avec toutes les clés qu'on peut avoir, les parents ne vont pas être obligés de dire à l'enfant « tu as des problèmes, raconte-moi ». Parce qu'il n'y a rien de pire pour un enfant. Bien sûr qu'il a un problème, mais comment définir ce problème ? Comment l'expliquer ? C'est quelque chose qui est au-delà de son entendement, de son intellect, puisque personne ne lui a expliqué. Si des parents disent avec tout leur amour et leur bonne volonté à des enfants « si tu as des problèmes, tu peux venir m'en parler », la plupart du temps, ils n'en parlent pas. Alors que si des parents lui disent « tu vois, voilà ton attitude, regarde ce que tu es en train de faire, certainement que tu es en train de vivre ça, ça et ça au fond de toi. Voilà quelle est ta souffrance. » À ce moment-là, l'enfant va pouvoir déterminer exactement, il va pouvoir se reconnaître. Hein. Mm-hmm. Et quand il peut se reconnaître, il va pouvoir déjà se sentir soulagé parce que, oh, enfin, je sais qui je suis, et je ne suis pas né extraterrestre, je ne suis pas un méchant. Hein. Puisque papa et maman peuvent me décrire, ça veut dire que c'est normal. Hein. Et là où le dialogue peut encore continuer, c'est qu'on va s'apercevoir, et c'est une démarche que je fais depuis 25 ans, c'est que lorsque des parents amènent des enfants, on va s'apercevoir que...
Il faut travailler sur les parents aussi.
Mais mieux que ça, on va s'apercevoir que les parents ont les mêmes problèmes émotionnels que leurs enfants. Mmh. On a des problèmes émotionnels complémentaires avec nos enfants. Ce qui veut dire que lorsque des parents peuvent également déterminer, prenons par exemple le cas de parents qui ont eux-mêmes des problèmes de rejet, qui souffrent eux-mêmes de ce problème, qui vont comprendre qu'ils peuvent changer quelque chose dans leur attitude, qu'ils vont comprendre qu'ils peuvent apprendre à s'aimer. Ils vont amener à l'enfant une expérience extraordinaire, d'une part en lui donnant des clés, mais en plus en lui disant, tu vois, nous aussi.
Mais comment doit se dérouler, selon vous, la démarche d'un parent, hein, mais ça peut être un enseignant aussi. Il doit faire d'abord le travail sur lui-même pour l'apprendre à le faire avec l'enfant, ou bien c'est en apprenant à le faire avec l'enfant que ça le renvoie à sa propre personnalité et qu'il fera le travail sur lui-même.
Mais à partir du moment où un enfant vient au monde, obligatoirement, il nous renvoie à nous-mêmes. C'est notre miroir.
Oui, mais vous, en tant que professionnel, vous souhaiteriez que les parents fasse la démarche dans quel sens ?
En tant que professionnel, je souhaiterais que tous les êtres humains fassent cette démarche. Parce qu'on parle des parents, mais je pars du principe que tous les adultes sont responsables des enfants, pas seulement les parents. Mmh. Nous sommes des adultes, nous leur donnons un exemple, nous leur donnons une référence, et je ne vois pas pourquoi seuls les parents sont responsables. Tous adultes, nous sommes responsables de ce que nous laisserons à nos enfants pour demain. Mmh. Alors, évidemment que ce qui est bien pour des parents, c'est de pouvoir faire donc ce fameux travail. Mais il n'est pas nécessaire que des parents fassent d'abord le travail. Parce qu'à partir du moment où les parents commencent ce travail, obligatoirement, lorsqu'ils rentrent à la maison, c'est quasi instantané. Les parents vont ressentir, vont voir, vont découvrir des attitudes chez l'enfant qu'ils vont pouvoir donc définir, et en même temps il va y avoir une interaction entre ce travail qu'ils font eux pour eux et ce qu'ils peuvent apporter comme expérience à leurs enfants. Mmh. Et ça devient un partage, en fait.
Mmh. Est-ce qu'on peut donner quelques éléments sur l'enfant, par exemple, persévérant, la personnalité, je dis l'enfant, mais la personnalité persévérante.
Mmh. Personnalité très intéressante. Très intéressante, qui fait beaucoup souffrir ses parents. Alors, le persévérant. Le persévérant, nous allons voir un enfant qui, au départ, adore jouer. Mmh. C'est déjà un de ses paramètres. En principe, il déteste le travail, hein, il déteste les travaux ménagers. Et donc, il va avoir très souvent des problèmes relationnels avec ses parents, avec son entourage, parce que à la maison, tout le monde met la main à la pâte, et lui, dès qu'il faut faire quelque chose, il a toujours quelque chose d'autre à faire ailleurs. Hein. Mm-hmm. C'est le genre d'enfant qui, au moment de faire la vaisselle, tout d'un coup, a une grande envie de faire pipi. Vous devez tous connaître ça. Ou alors il a mal au ventre, ou alors il a quelque chose de très très urgent à faire. Et donc cet enfant persévérant va souvent revivre la même chose à l'école. Bon, c'est vrai que nous pouvons voir la situation d'une manière légère, mais malheureusement, il se trouve qu'actuellement, tous ces enfants avec lesquels je travaille depuis 25 ans, ce sont des enfants qui ont des symptômes très précis. Hein. Ces symptômes amènent ces enfants. Pourquoi ils n'aiment pas travailler ? C'est pas parce qu'ils sont seulement paresseux, je veux dire, c'est autre chose. Il y a quelque chose de plus fort derrière. Hein. C'est que ce sont des enfants qui ont une grande peur d'assumer ce qu'ils pourraient considérer comme un effort. Ils ont l'impression que dès qu'il y a effort, dès qu'ils ne savent pas faire quelque chose, ils ne pourront jamais y parvenir. Et c'est tellement fort cette peur, parce qu'en fait c'est une programmation, c'est une peur. C'est tellement fort cette peur que cet enfant peut être amené à perdre ses moyens, il peut être amené à avoir des problèmes de concentration, il peut être amené à passer des heures par exemple sur quelque chose qu'il aime faire et à ne pas pouvoir avancer dans un travail qu'on lui donne à faire parce qu'il a peur. Alors ce qu'il faut faire, c'est déjà lui expliquer tout ça. C'est déjà la première chose. Nous avons des êtres intelligents en face de nous. Lui expliquer toutes ces choses-là et lui expliquer aussi ô combien il va avoir de difficultés dans sa vie s'il persévère justement dans cette attitude. Et lui expliquer aussi que lorsqu'il a ses problèmes de concentration, c'est pas parce que c'est un idiot. C'est pas parce qu'il est malade, c'est pas parce qu'il a des difficultés, c'est un enfant qui est anormal, c'est simplement parce que son subconscient refuse de faire un effort et ce subconscient l'amène justement à ne pas pouvoir se fixer sur quelque chose. En fait, la programmation de cet enfant au départ l'amène à être éparpillé, c'est-à-dire qu'il est éparpillé dans son jugement, dans sa tête, et il est éparpillé dans ses gestes. Ce qui veut dire que si vous regardez bien fonctionner un enfant comme ça, il ne va jamais aller au bout de ses gestes. Il prend un objet, au lieu de le remettre à sa place, tout d'un coup il pense à autre chose, il le pose. Bon, et on parle d'enfants, beaucoup d'adultes peuvent se reconnaître là-dedans. Hein. Malheureusement, cette attitude va se retrouver aussi dans son intellect, dans sa manière de fonctionner. Pardon.
Un peu d'eau, si j'aime.
Merci. C'est bon. Et ce qui est dommage dans cette situation, c'est que beaucoup de médecins ont déterminé que cette attitude chez les enfants, c'est un hyperactif, c'est un déficient d'attention. Et je vois se dessiner depuis de nombreuses années des attitudes du corps médical qui amènent ces enfants à prendre des médicaments et qui amènent les parents finalement à ne pas aider leurs enfants parce que à partir du moment où cet enfant est considéré comme un malade, ça arrange tout le monde. Ça arrange le médecin parce qu'il a trouvé un diagnostic, pas de responsabilité. Ça amène les parents à dire « Nous ne sommes pas coupables, c'est pas notre faute parce qu'il est malade. » Et ça amène l'enfant à dire « Tout à